Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick, bonjour
à tous. Eh bien, nous avons commencé aujourd'hui en musique, n'est-ce pas ?
Absolument.
Nous savons qu'aujourd'hui, nous allons accueillir Monsieur Emmanuel Mouchetouris. Bonjour monsieur.
Bonjour Patrick, bonjour Gisèle.
Bonjour à tous. Donc, vous êtes wagnérien et fin connaisseur d'un ami de Wagner, on va dire Louis II de Bavière. Et c'est intéressant parce que vous nous venez de Lyon, donc... À l'Opéra de Lyon, saison 2022-2023, on donne Tannhäuser.
C'est jusqu'au 30, c'est dommage.
Du 10 au 30 octobre. Lyon a toujours été une ville wagnérienne, un peu le Bayreuth français. Et à Lyon existe le cercle Richard Wagner, dont le siège est Place Bellecour. Et ils font partie du cercle international de Richard Wagner. Donc, il est étonnant, et il faut le remarquer, que ce compositeur jouit d'une certaine admiration, d'un culte, on va dire, pour qu'il y ait des cercles dans le monde entier, et qui fonctionne toujours bien, si on peut dire. Et Lyon, eh bien, dans sa politique culturelle, a toujours veillé à ce que l'on donne du Wagner. Moi, personnellement étudiant, j'avais vu Tannhäuser, prononcé à la française, Le vaisseau fantôme, et puis j'avais vu La Valkyrie, et puis beaucoup d'autres. Et c'était de grands moments dont je me souviens encore avec plaisir. Donc nous avons choisi les maîtres chanteurs de Nuremberg, et non pas Tannhäuser, mais pour faire entrer donc Louis II de Bavière et Wagner. Et vous allez, Emmanuel, nous raconter votre passion, vous la faire partager, car vous relatez ces lectures sur ce roi, disons, qui est unique, ce roi mystérieux et quand même bien discuté. Nous savons que Louis II et ses relations difficiles, délicates avec le compositeur allemand d'origine saxonne, Richard Wagner. La correspondance est importante, mais il s'agit surtout peut-être de billets, on va dire, qui révèlent deux mondes rapprochés et éloignés. Il montre deux personnalités aux antipodes, aux prises avec le génie, vaste programme, avec l'art, et une vie tumultueuse et compliquée, même en politique. Il nous reste la musique puissante et envoûtante de Wagner, ses opéras, et puis aussi ses fameux châteaux de Bavière, connus dans le monde entier, ne serait-ce que Neuschwanstein, qui intéressa Walt Disney pour s'en inspirer pour le château de la Belle au Bois dormant, tous les autres châteaux que l'on trouve dans la belle Bavière touristique, riche, abondante et culturelle. Et puis donc une correspondante que vous avez l'honneur de nous présenter, une amitié entre ces deux génies, plus une passion compliquée, je dirais, plus qu'une amitié, parfois orageuse, parfois douloureuse, avec deux idéalistes, deux artistes, deux humanistes, il y a beaucoup de histes, donc nous allons revenir sur Terre. Tout cela est digne d'un des opéras du maître. Donc, depuis quand vous intéressez-vous à Richard Wagner et surtout à Louis II ?
Ah, mais Gisèle Patrick, lorsqu'on parle de Louis II de Bavière, on imagine, vous l'avez dit dans votre introduction, les châteaux, le Hohenschwangau, le haut pays du cygne, la folie, son caractère emporté, la mort mystérieuse. C'est des choses qui sont intéressantes, mais les correspondances à une époque où on s'écrivait énormément relatent, dénotent le comportement de Louis II de Bavière vis-à-vis de Wagner et d'une manière générale de toutes les personnes avec qui il a entretenu une correspondance. Est-ce que vous voulez écouter ça ?
Nous Louis sommes tout oui, Louis n'est-ce pas Gisèle ?
Absolument.
Louis II de Bavière écrit à Wagner. « Mon saint ami adoré, vous me procurez des joies que seul Dieu peut donner. Mon sublime ami divin, vous fûtes et vous serez mon tout jusqu'à ma mort. Il me semble que le ciel est descendu sur la terre, un et tout. Oh, que j'aime d'un brûlant amour, que j'adore, Seigneur de ma vie. » Et Wagner de répondre. « Mon immense, ma dernière joie, mon roi, mon ami, mon perfecteur, mon Siegfried victorieux, ô saint que j'invoque. Salut à toi, élu de Dieu, somme de toute beauté, de toute bonté, de toute perfection. » Cette emphase extraordinaire, excessive évidemment, elle ne se ressent pas de la même manière entre Louis II et Wagner. On sent bien que Louis II, il est sincère parce qu'il a cet amour débordant pour ce compositeur.
Il le déifiait peut-être un peu aussi.
Il le déifie totalement, Gisèle, puisqu'on raconte qu'à l'époque de l'adolescence, à 14-15 ans, Louis II de Bavière a déjà assisté à une quinzaine d'opéras et que quand il va assister à Tannhäuser, il va être à la limite de l'apoplexie.
C'est ça, voilà.
Il va faire une crise de nerfs à telle enseigne qu'il faudra le descendre du carrosse au milieu de la nuit du retour de l'opéra pour qu'il puisse s'aérer.
Il avait été atteint d'un seul coup.
Fracassé. Et Wagner, il est beaucoup moins sincère dans ses réponses. Il se sert un petit peu de cette amitié.
Il va se servir jusqu'au bout. Hein.
Ah, jusqu'au bout. Et il dit cette phrase terrible, parce qu'on peut l'interpréter de cette manière-là. Wagner parle de Louis II. Il dit « Je suis son Wotan, il est mon Siegfried. » Et Wotan, c'est le dieu des dieux.
C'est ça.
Il inverse la proportion entre le roi et le compositeur et celui qui bénéficie des largesses du roi. Voilà le genre de correspondance. Alors, il y en a eu énormément. On peut en lire comme ça. Jusqu'à plus soif. Et c'est toujours sur cette thématique-là. Et cette insincérité de Wagner vis-à-vis de son protecteur et la passion de Louis II de Bavière pour Wagner, je trouve que c'est intéressant de les mettre en perspective.
Oui, c'est ça.
Et puis, il y a toujours cette musique qui illustre parfaitement cette dichotomie entre le comportement de l'un et de l'autre.
Tout à fait. Wotan, le dieu aussi, dieu de la guerre aussi, qui se promenait avec des corbeaux sur les épaules.
C'est ça.
Et qui était borgne. Voilà. Donc, ça vous a enchanté, c'est au sens wagnérien. Vous connaissez Neuschwanstein, le château ?
Pas du tout.
Pas du tout. Alors là, s'il faut aller faire un tour, si vous voulez, c'est pas très loin d'ici. Il faudra s'armer de patience.
Parce qu'il faut attendre des heures ?
Pas forcément. Tout dépend si on réserve. Et puis, c'est un château qui est merveilleux. Et ce sont les trois châteaux. Il y a même plusieurs châteaux. Il y a, comme vous l'avez dit, avant, il y a Hohenschwangau. Avant, il y avait Hohenschwangau, c'est-à-dire le château, la haute terre du cygne. On va retrouver chez Wagner le cygne très souvent, Lohengrin, Tannhäuser. Et derrière Neuschwanstein, nous avons le lac des Alpes, Alpensee, et il y a toujours bien sûr des cygnes. Il y a donc, comme vous l'avez dit, Neuschwanstein, la nouvelle pierre du cygne. Le premier château, c'est 1833-37, alors que l'autre, c'est 1869-1886.
Il en a construit beaucoup de châteaux.
Oui.
Il s'est ruiné d'ailleurs.
Oui, voilà. Oui. Donc on en parle de celui de Neuschwanstein, ça fait un. Le deuxième, Linderhof, qui est un bijou de petit château, qui est beaucoup plus français, on va dire délicat. 1874-1878. Et puis, comme Louis II était très amoureux de la France, la Bavière a toujours été très proche de nous. C'est nous, Français, qui n'avons pas voulu saisir un peu cette opportunité politique. 1878, donc. Et puis, il a voulu tellement recréer l'esprit français en Bavière que nous lui devons le château de Ehrenchiemsee. Ehrenchiemsee, qui est la réplique. La Galerie des Glaces est un petit peu plus grande.
C'est Versailles. Non, ce n'est pas la Galerie des Glaces. C'est dans le château où il a fait une copie de la Galerie des Glaces, mais beaucoup plus grande, de 22 mètres.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ah bon, je croyais que vous disiez
C'est ce que j'allais dire, pas du tout. Je l'ai bien visité. Donc, 1873-1886, c'est beaucoup plus vaste. Et c'est tragique pour lui, parce que c'est dans la Galerie des Glaces du vrai Versailles que l'Empire allemand a été proclamé. C'était donc la défaite de la France. C'était voulu à Versailles pour venger, en somme, les guerres de Louis XIV, de Colbert et surtout de Louvois. Voilà, le 18 janvier 1871. Donc, Wagner, pourquoi Wagner? Eh bien, donc, c'est un... Comment que vous pouvez, Gisèle, le qualifier de ce compositeur?
Il est quand même puissant. Il a quand même cette force en lui. Mais quand même, les rapports qu'il a avec Louis II, ça m'a beaucoup énervé parce que je dis...
Énervé, c'est intéressant.
Oui, bien sûr, parce qu'il a profité du roi, sincèrement, jusqu'au bout. Parce que même quand il a voulu faire Bayreuth, il n'avait pas d'argent. Oui. Ils étaient fâchés quand même, hein, Louis II et puis Wagner. Il a quand même eu le culot d'aller lui demander de l'aider à construire. Donc Louis II a participé quand même à la construction de Bayreuth, qui est un grand... C'est pour déifier quand même Wagner. Et donc, il a demandé d'argent. Et Louis II, jusqu'au bout, a participé.
Alors, il a fait mieux que ça. Je me suis intéressé à cet aspect. La monarchie des Wittelsbach, des rois de Bavière, c'est une monarchie quasi constitutionnelle. Il y a une liste civile. Oui. Et on vote tous les ans le budget d'entretien de la couronne. Et pour une année donnée, je ne me souviens pas de l'année donnée, on était à 2 millions de florins. C'est ce qu'on attribue au monarque et puis à sa suite pour l'entretenir. Le coût de Bayreuth, c'est 5 millions de florins. Et Wagner, qui a déjà reçu des sommes colossales, n'hésite pas à aller demander une petite avance de 5 millions de florins, ce qui correspondrait pratiquement à 3 ans de budget, si je puis dire, de l'État, de la royauté. Avant cela, il a reçu des sommes considérables. Et à un moment, le trésorier du royaume était tellement agacé par la cupidité de Wagner que plutôt que de remettre à Cosima, la femme de Wagner, elle passe à la banque, hein, c'est un vaudeville. Chercher dans les caisses de l'État l'argent que lui a promis le roi.
Elle a tout raclé ce qu'elle a pu. Hein.
On va lui donner, plutôt que des billets, des pièces. Alors elle va repartir avec une brouette, de manière un petit peu à la ridiculiser. Voilà le rapport de Wagner à l'argent et le rapport de l'argent entre Louis II et Wagner.
Nous avons là affaire à un artiste, là, Wagner, n'est-ce pas? Et c'est Louis II qui, en 64... va aller faire trouver Wagner, qui est démuni, qui est fauché, on va dire.
Ah ben, il est fauché. Il est poursuivi par plein de créanciers. Hein.
Voilà. Bon, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ce sont les liens avec Louis II de Bavière. C'est un anarchiste, il court à droite et à gauche, j'ai le cas de le dire. Et finalement, il va en Europe et partout, il se promène, il va... Il travaille. Wagner, c'est un poète. N'oublions pas que c'est un poète.
Oui, c'est vrai qu'il a plein de qualités.
Oui. Nous arrêtons pas seulement aux défauts. Il faut les deux pour faire un être humain. C'est un poète, c'est un écrivain, c'est un librettiste, c'est un metteur en scène, c'est un danseur. Il a écrit en pensant à la religion, à la philosophie. Il faut voir quand même qu'on lui doit quand même beaucoup de choses sur le plan artistique. Si la musique de Wagner n'existait pas, ça manquerait beaucoup. Et en Allemagne, ça a permis d'avancer sur le plan musical. et ça a permis à Baudelaire, par exemple, de découvrir que c'était vraiment un génie. Les Français n'ont pas bien saisi, et c'est dommage, le génie et le charme de Wagner, indépendamment des questions financières. Quant au roi, eh bien le roi, il était comme il était, mais heureusement que les deux se sont trouvés sur le même chemin. Voilà, à mon avis, il ne faut pas voir uniquement le côté financier. Ça a aidé, mais c'était quand même deux êtres qui étaient très, très unis, si on peut dire, mais en même temps, qui ont donné quelque chose. Et qu'est-ce qui reste? Il reste les châteaux, que dans le monde entier on connaît, et puis reste quand même la musique
de Wagner.
Qui
font la richesse de Bavière, en plus.
Ils ont raison. C'est l'État libre de Bavière. Ils font comme ils veulent. Ils ne nous aiment pas beaucoup, nous, Français, parce qu'on est un peu souvent un peu indisciplinés et tout. Donc, c'est comme ça. Et les œuvres de Wagner sont très riches, n'est-ce pas, Gisèle? Alors, qu'est-ce que nous avons, par exemple, comme grandes œuvres. Nous avons, par exemple, Tannhäuser, bien sûr. Ce sont des légendes du Moyen-Âge.
Oui.
Hein, ce sont des légendes du Moyen-Âge. Et si un jour, peut-être, vous allez, vous deux, peut-être, voir le Hohenschwangau, c'est vraiment le Moyen-Âge que l'on voit sur les murs. Il y a toutes les légendes de Siegfried, toutes les légendes germaniques. Et ça, ça plaît beaucoup aux Allemands, pas qu'aux Allemands, mais à tous les visiteurs. Ce sont des fresques qui sont encore quasiment intactes. Ensuite, il y a le château de Neuschwanstein, avec toujours le mythe du cygne, la poésie que l'on voit dans Lohengrin, que l'on voit aussi dans Tannhäuser. Et puis, Tristan Isolde, les maîtres chanteurs, car à la fin de sa vie, il a profité des gulden, c'est-à-dire des florins de Louis II, pas de la Bavière, de Louis II, mais en compensation avec tout l'argent que Bismarck a donné à la Bavière pour qu'elle puisse accepter de faire partie du nouvel empire allemand. C'est important tout ça. Sinon, après Wagner, Bismarck, le grand Bismarck, qui n'aimait pas la musique de Wagner, son préféré était Beethoven. C'est beaucoup plus doux. Beethoven a écrit un seul opéra. Donc, il y a une opposition entre Beethoven, Fidelio. Et Wagner. Avant tout, il n'y a pas de symphonie. Ah, si, au début, il y a une symphonie au début. Mais il fait son apprentissage avec la symphonie et tout. Et il y a tous ces opéras et toute cette musique. Et les châteaux correspondent un peu à la musique riche, peut-être tarabiscotée, colorée, car Wagner est un coloriste. Vous avez, Emmanuel, d'autres exemples de correspondances à nous faire partager.
Alors, encore une fois, on pourrait lire à l'envi les correspondances entre Wagner et Louis II de Bavière.
Oui.
Et puis les réponses. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé, c'est à un moment, Louis II de Bavière wagnerise son entourage.
Voilà.
Et au premier titre de son entourage, il y a évidemment sa fiancée. Alors, on sait, parce que ce n'est pas passionnant, mais finalement, ses fiançailles n'iront pas plus loin que les fiançailles.
Et là, on peut en parler quand même.
Alors, Louis II de Bavière va se fiancer avec une de ses cousines, Germaine,
la sœur
d'Elisabeth d'Autriche.
Tout à fait.
À l'époque, ça se faisait, pas une difficulté, au contraire, on reste dans l'alliance des princes de Bavière.
Politique.
Oui, c'est politique. Voilà. Ils se connaissent depuis l'enfance. Louis II se montre très pressant dans ses correspondances, dans ses lettres à Sophie Charlotte, et à l'inverse de son comportement avec elle. C'est-à-dire que, on sait qu'a priori, il n'était pas porté sur l'agent féminine. Il ne l'est pas davantage vis-à-vis de cette jeune fiancée qui a 19 ans, mais il lui écrit sans arrêt. Alors, il lui écrit avec cette emphase.
Mais parce qu'il voulait se confirmer
il veut se convaincre lui-même.
Oui, c'est ça.
Mais alors, ce qui est intéressant, et là encore, on rejoint Wagner, c'est qu'il le fait dans une espèce d'emphase, dans une atmosphère wagnérienne permanente.
C'est
d'ailleurs, il y a une scène qui est très drôle.
Il joue son opéra
en permanence. Voilà. Alors, il y a une scène qui est très drôle parce que, il faut se situer la géographie de l'endroit. Il y a ce fameux lac de Starnberg avec le château de Louis à Berg, le château de Sophie Charlotte, c'est une époque où tout le monde a son petit château, à Possenhofen. Et il y a juste le lac qui sépare les deux.
Ils sont en face d'une rive chacun.
Exactement. Voilà. Et nuit après nuit, Louis II, soit directement sur une embarcation, soit par l'intermédiaire d'un de ses émissaires, porte au milieu de la nuit des petites lettres à la jeune Sophie Charlotte.
Il l'a fait réveiller en pleine nuit.
Il l'a fait réveiller en pleine nuit. Bon, la gamine, elle a 19 ans. Hein. Alors, on imagine que réveiller 3, 4, 5 fois dans la même semaine, au bout d'un moment, elle commence à se lasser un petit peu. Et puis un jour, alors, il lui envoie un petit billet. Puis évidemment, il attend la réponse. Il est de l'autre côté du lac. On l'imagine volontiers campé sur le belvédère du château et d'attendre que l'émissaire revienne avec la réponse de la jeune fiancée. Alors, un jour, il lui envoie un très joli billet. « Ô toi que j'ai choisi, encore enchanté de la magie des sons, par qui nous fûmes hier ravis ensemble et transportés. » Évidemment, il parle d'un opéra de Wagner auquel ils ont assisté pour la 100e fois, la 50e fois. « Je mets aujourd'hui, dès l'aube, il est 4 heures du matin, toute la ferveur de ma tendresse en un souhait passionné de bonheur pour vous, ma gracieuse fiancée. » Et comme c'est le 4e ou 5e mot qu'elle reçoit dans la même semaine, elle n'a pas la force de lui répondre, ou alors elle lui fait répondre « je vous aime aussi » ou quelque chose comme ça. L'aide de camp ramène la réponse. Sophie n'a rien écrit, ou presque rien. Il est furieux et il rappelle, il le prend très mal, et il dit « je suis son cousin et son fiancé, mais je suis aussi son roi ». C'est-à-dire qu'il ne faut jamais le destituer de ce rôle de Siegfried.
Il tient absolument.
De Wotan. Il est dans cette atmosphère wagnérienne permanente. On ne peut pas le déloger de ça. Il est wagnérisé à l'extrême.
Sa vie est un opéra. Hein.
Ah oui, complètement. Et puis
c'est très envoûtant, Wagner.
Jusqu'à la fin.
C'est normal, c'est très envoûtant.
Donc, alors, il est fâché parce qu'elle ne lui répond pas.
Oui, alors il est fâché, puis ils vont se réconcilier, puis ils vont se fâcher définitivement, vous le savez.
Mais je crois que c'est elle qui en a eu assez.
Oh, elle en a eu assez parce qu'elle s'est bien rendue compte, la première, et puis elle en a informé son entourage qu'a priori le mariage
n'arrivera jamais. Il n'aimait pas les femmes, il avait compris.
Son père, Max en Bavière, soumet le roi à un ultimatum, le roi apprécie pas, donc finalement il rompt les fiançailles. Il se sert d'un prétexte plus ou moins fallacieux. Il semblerait qu'elle ait eu une relation avec le fils du photographe de la cour, peu importe. En substance, il n'a pas envie de se marier et puis finalement, tout le monde est content. Et puis, ça fonctionnera comme ça. Il a quand même réussi, et encore une fois, pour rester sur ses missives que je trouve passionnantes, il a réussi à wagneriser Sophie Charlotte, qui avait de toute façon une passion pour la musique. C'était une très bonne musicienne.
Oui.
Elle aimait Wagner et puis l'opéra plus largement. Mais j'ai retrouvé une lettre dans l'excellent ouvrage de Jean Descartes que Sophie écrit à Wagner. Et ça pourrait être Louis II de Bavière qui l'écrit.
Ah oui.
On est évidemment encore une fois de plus au lendemain d'un opéra. Et Sophie écrit à Richard Wagner. « J'aurais tant aimé, lors de notre entrevue romantique, vous poser des questions sur vos livres. Mais le temps était si court qu'elle fut belle cependant cette journée. Oh, jamais je ne l'oublierai. Nous nous reverrons. Oh, certainement, la belle saison facilitera une autre rencontre. Et d'ici là, je veux prendre patience. Si seulement le beau mois de mai était proche, quand les lilas fleuriront et embaumeront l'air, alors mon Parsifal ne sera plus loin. » Elle est wagnerisée.
Voilà, c'est ça, oui. Oui.
Parsifal, le dernier opéra de Wagner. Mmh.
Elle était quand même, elle a été très patiente quand même, cette Sophie, parce qu'il lui a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir. Donc elle a essayé jusqu'au bout, malgré tout. Elle a essayé de se convaincre qu'elle l'aimait, que lui l'aimait, mais c'était assez dramatique. Et je pense que sa sœur, elle avait compris tout ça.
Oui,
l'impératrice Sissi, là.
Oui, alors c'était un mariage fantastique, hein, parce que les en Bavière, si je peux dire, c'est une branche cadette de la famille régnante. C'est un mariage prestigieux, c'est une belle alliance. Louis II de Bavière, c'est le roi.
Mais
tout le monde l'a poussé. Sa sœur aînée, effectivement, Élisabeth d'Autriche, a largement
contribué à cette alliance,
à la concrétisation de ce qu'elle espérait être le mariage. Oui, elle a été patiente. Alors, patiente oui et non, les fiançailles.
Elle était jeune quand même.
Un petit peu éternisée. Elle a trouvé son bonheur ailleurs, on le sait, avec un des fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Et puis on en parlera sans doute peut-être sur la fin de votre émission. La fin de sa vie a été
très triste.
Tragique.
Oui.
Tragique.
Ouais. Tragique comme un opéra de Wagner.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est couronner le tout.
Il y a le tragique dans Wagner. Ouais. Vous avez encore des passages qui sont révélateur du malaise aussi qu'il y avait entre Wagner et puis Louis II de Bavière aussi. Parce que c'était ça aussi.
Oui, il y a eu beaucoup de disputes. Alors, elle tourne souvent autour de l'argent que réclame sans cesse Wagner à Louis II. Et puis, sur la fin, il va y avoir une vraie fâcherie. Il y aura une pseudo-réconciliation quelques années avant la mort de Wagner. En 1883, on sait que Louis II de Bavière est mort trois ans après Wagner. Mais la réconciliation, elle ne sera jamais très sincère. Hein. On le voit dans les dernières lettres, c'est beaucoup plus court. Le style ampoulé a changé. Peut-être est-ce que Louis II s'est rendu compte que, quelle que soit la passion qu'il avait pour Wagner et pour ses opéras, il a sans doute été largement exploité.
Il pensait qu'il avait été grugé quand même.
Oui, je pense qu'il
il avait compris quand même. Il avait fini,
par comprendre.
Ah ouais, ouais.
Bien après les autres.
Oui, mais c'est que c'était sa vie. Hein. En fait, ce Louis II, c'était quand même un roi improbable.
Imprévisible.
Imprévisible, mais malgré tout, il avait cette emphase d'être le roi. Et ça, on ne pouvait pas le lui enlever, c'était normal.
Oui.
Mais il avait ce côté, il aimait les arts, il aimait par exemple se promener tout seul. Et sur le lac, la nuit, il se baladait sur une barque en coquillage.
C'est ce qui plaît quand on visite les châteaux là-bas.
Donc c'est quand même, il avait une vie particulière parce qu'en fait, il était très poétique, il était beau comme un dieu, ça c'est sûr, voilà. Mais il avait une vie bien particulière et il a mal fini, mais bon. En plus, il a fini tragiquement, mais il s'était beaucoup enlaidi en plus. La vieillesse l'avait pas. Il n'était pas vieux, parce qu'il est mort, il n'avait pas 40 ans. Et je pense que la vie l'avait quand même bien fatigué, parce qu'il faisait presque 120 kilos quand il est mort. Donc la déchéance totale, c'était une fin de règne terrible. Parce que ce type-là, qui était d'une beauté incroyable. Il y a eu une descente aux enfers abominable, quoi.
Mais il nous laisse les châteaux.
Il nous laisse les châteaux.
Et la beauté, quand même.
Et puis, quand même, le côté romantique. Oui. Parce qu'on aime ça, en fait.
Il n'y a qu'à voir les foules. Je me rappelle, moi, en la saison juillet-septembre, pas loin de 10 000 personnes par jour venaient visiter le château. Et du monde entier.
Alors, il a fait construire des châteaux, mais il n'a vécu que dans un seul, hein, en fait.
Ben oui, parce qu'il poursuivait...
Parce qu'il était quand même assez solitaire.
Et puis, il poursuivait un rêve inaccessible, l'inaccessible étoile, comme dirait Jacques Brel. Il y avait ça aussi. Puis c'était les romantiques.
C'était l'époque des romantiques.
C'était l'époque des romantiques. Et le site, les grandes forêts, les riches forêts, ces châteaux de la Belle au Bois dormant... C'est vraiment, ça vous laisse un peu admiratif, ces quatre châteaux. Disons, le moins spectaculaire, c'est celui qui, à mon avis, Aaron Kimsey, les Français, aussitôt, ils pensent à Versailles. C'est très français, bon, on le sait. Mais Linderhof aussi, on dirait des petits châteaux ou des manoirs, pas d'amendement, mais Linderhof est très fin, très français. Très délicat.
Mais leur construction a dû être terrible parce qu'ils étaient souvent sur des pitons assez élevés.
Pour l'époque,
donc c'était quand même des prouesses. Sincèrement, pour bâtir ce genre de... Il fallait bien connaître l'architecture.
Mais ils l'ont fait, ça a duré pendant des années. Et l'argent de la Prusse a aidé aussi, il faut le dire quand même. Ah oui, l'argent de la Prusse a aidé. Car Bismarck voulait garder la Prusse dans son unité. Et bon, quand la guerre de 70 a été déclarée par les Français, l'oublions pas, on s'est jeté dans la gueule du loup. Bon, ça avait été un peu préparé, mais enfin...
D'ailleurs, il n'était pas du tout content hein, qu'on se... Il était bien pour les Français.
Il était bien pour les Français.
La guerre de 70, il n'était pas du tout d'accord.
Le roi. Mais malheureusement, le gouvernement avait signé des accords secrets avec la Prusse.
C'est ça, voilà.
Qu'ils soient d'accord ou pas, les gouvernements, les troupes, n'oublions pas que, guerre 70, les Français disaient, il n'y avait que les Prussiens. Il y avait, certes, mais il y avait quand même 55 000 Bavarois. Et c'est eux qui ont attaqué d'abord en Alsace.
Oui.
Donc, il y avait le pays de Bade aussi, il y avait la Hesse, il y avait tous les États du Sud. que Napoléon III a toujours méprisé et n'a jamais cru qu'il marcherait avec la Prusse. Or, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait en vertu d'accords secrets. Et en 4 semaines, eh ben, la France a subi un traumatisme terrible. Le Second Empire est tombé dans l'eau. Et puis ensuite, la République a été rétablie. Et surtout, nous avons été amputés de l'Alsace et de la Moselle. Là, dans tout ça, réaction, on est loin des châteaux. On est loin. Wagner a composé une marche pour en l'honneur de la Prusse qui a su bien manœuvrer avec ses États du Sud, dont la Bavière. Mais la Bavière catholique, alors que la Prusse était luthérienne, a dû quand même, Bismarck a inondé la Prusse d'argent prussien pour qu'elle reste au sein de l'unité allemande.
Il voulait faire l'unité allemande.
Et voilà, et il y a ça politiquement, c'est très important aussi. Mais Bismarck, très souple, a concédé, que les postes restent bavaroises, que l'armée en temps de paix reste bavaroise, que les chemins de fer restent bavaroises. C'était peut-être des hochets, mais avec les Bavarois, il fallait aller très doucement, car la France catholique était pas loin, et surtout l'Autriche. Et Bismarck craignait un ensemble catholique, on va dire. L'Italie était pas trop loin. France, Bavière et Autriche.
Et là, sur le plan, on peut revenir à la correspondance.
Sur la politique, c'est important aussi de voir tout ça aussi. Et si on relisait certaines notes diplomatiques, on croirait qu'elles ont été écrites hier. Il y a 8 jours à peu près.
Hier, oui.
Et oui. Alors, la correspondance, on voit beaucoup de choses. Et après, on passe à Tannhauser musicalement.
À propos de ces notes diplomatiques, Patrick Gisel, alors, vous l'avez dit, Bismarck est... à l'époque la plus importante de sa vie, tout à son affaire de réunification des États allemands.
L'unité, faire l'unité qui n'existait pas.
Alors voilà, alors la Bavière, c'est évidemment une cible de choix. Le poids politique de la Bavière, il est extraordinaire. Ouais. On fait partie des grands électeurs, ceux qui vont désigner l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mmh. On a une frontière très large avec l'Autriche. Je crois ne pas me tromper en disant que c'est la frontière la plus large qui soit, la plus longue des différents États allemands. On a un petit bout du royaume de Bavière, parce qu'en fait, le royaume de Bavière sont deux ensembles. Relativement important qu'à cette frontière avec l'Autriche, et puis de l'autre côté, aux alentours de Landau, une petite parcelle qui a une frontière commune avec la France. Alors, pour Bismarck, tant sur le plan géostratégique que le plan diplomatique, il a besoin de cette alliance avec tous les États allemands, et la Bavière, évidemment, fait partie de ses cibles, si je puis dire.
C'est sa volonté à lui, hein, il veut absolument l'unité.
Alors voilà, c'est ça. Ben et oui. Puis il va comme ça prendre le pouls des différents États allemands. Il se rend souvent dans les duchés, dans les royaumes du futur État allemand, de l'Empire. Et il y a là encore, parce que les correspondances, c'est toujours important, parce que ça décrit les personnages mieux que les livres d'histoire. Les historiens relatent les faits, c'est la vérité de l'instant, du moment, mais les correspondances, c'est le ressenti immédiat. Et j'ai là une très belle correspondance également de Bismarck au sortir d'un déjeuner avec Louis II. Alors, pour remettre rapidement le contexte, sans rentrer dans les détails, Bismarck, on vient de le dire, fait le tour des petits duchés, des royaumes allemands, à la demande de Guillaume Ier, et puis il se rend en Bavière, et le roi Maximilien II n'est pas là, pour une raison ou pour une autre. Il est donc reçu par son épouse, la reine, et par Louis II.
Son fils.
Et Louis II, il a 17 ans et demi, mais c'est le futur roi. Et Bismarck, qui va donc prendre le pouls des États allemands, déjeune avec Louis II de Bavière, et il écrit ensuite à Guillaume Ier, l'empereur allemand, il relate le déjeuner. « Le futur roi Louis II était assis en face de sa mère à côté de moi. J'avais l'impression que sa pensée vagabondait très loin de la table et qu'il ne se rappelait que de temps en temps son intention de me parler. »
Il paraissait rêveur.
Voilà, mais en même temps, souvent, il revient à la réalité. Mmh. Nos propos ne dépassèrent point le cadre des bavardages habituels à la cour. Mais même ainsi, il me semble apercevoir dans ses remarques un talent, une vivacité, un bon sens dont devait témoigner par la suite l'évolution de sa carrière. Quand la conversation tombait, il regardait le plafond derrière sa mère et de temps en temps vidait rapidement sa coupe de champagne. Ni à ce moment ni plus tard, il ne se laissa aller à des excès de boisson. Mais mon avis est que son entourage l'ennuyait et que le champagne aidait au libre jeu de son imagination. Je pense que c'est quelqu'un de très attirant. On voit que Bismarck a l'œil vif, rien ne manque à cette scène. Il sent que quelque chose ne va pas et en même temps, il décrit cet homme qu'il sent déjà intelligent. Et puis, si on rapproche cette correspondance des mémoires de Bismarck, Bismarck a écrit ses mémoires, je crois me souvenir, ça s'appelle « Pensée et souvenir » ou quelque chose comme ça.
C'est ça, « Pensée et souvenir ».
Voilà, et quand il parle de Louis II, il le décrit de cette manière extrêmement flatteuse, conforme à la réalité, en tout cas de ce qu'il en pense. Il dit que c'est un être clairvoyant, inspiré, pénétré de son devoir de prince. Est-ce qu'on ne peut pas faire un plus beau compliment venant de quelqu'un d'aussi prestigieux de Bismarck et qui décrit là encore, parce qu'on s'interroge, on s'intéresse toujours au roi fou, à son emphase,
à son déforme, on déforme tout ça.
Mais moi, ce que je retiens de ces correspondances, c'est que c'était un roi extraordinaire.
C'est ça.
Il n'a pas fait le
malheur. Donc il a été
son...
mal perçu, mais c'est vrai qu'il avait.
Et d'avoir l'avis de Bismarck à cette époque, sans le vernis de l'histoire et puis. Des appréciations futures, c'est extraordinaire.
Il l'avait bien jugé, en tout cas.
Il l'avait bien jugé, éminemment positivement.
Eh bien, nous partons avec Tannhäuser et la marche de Tannhäuser. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Bouchetouris et Gisèle, bien sûr. Nous sommes dans la correspondance entre Louis II de Bavière et Richard Wagner. Riche correspondance, de ce roi dont on vient de parler, qui finalement méritait d'être connu, malgré toutes les sottises qu'on a dites sur lui. Ça, c'est l'histoire. Mais enfin, c'est quelque chose d'important. Et avec Wagner, il nous reste les opéras. Et avec le roi, une vision un peu du monde curieuse que l'on découvre peut-être après, avec la postérité, et que l'on retrouve à travers l'écriture de ces deux géants, de ces deux personnalités. Alors Emmanuel, nous poursuivons notre visite dans la correspondance entre ces deux personnages. Peut-être qu'il y a des femmes qui vont apparaître et tout ça.
Oui, alors, encore une fois passées les correspondances entre Richard Wagner et Louis II de Bavière, on sait que...
Mais on découvre un autre personnage par ces correspondances.
Oui, elles sont évocatrices de ses rapports avec les uns, avec les autres. Il écrit toujours sous ce style très ampoulé, mais si on veut...
Je pense que ça devait être l'époque aussi.
Alors oui et non, parce
que
ce que j'ai pu lire, là encore, sur ses correspondances... Alors, il écrit depuis qu'il est tout petit, il écrit en français, parce qu'il a reçu une éducation dans cette langue.
Force et une éducation forcée, hein.
Forcée. Oui. Il écrit en français, il écrit en allemand. Et pour ce qui est des correspondances en français, celles en allemand, je me suis bien gardé d'essayer de les comprendre. il écrit d'une manière très linéaire, presque triste. Les lettres d'enfance ne sont pas du tout empoulées. Il n'a pas ce style encore que je dirais wagnérien. On dit que ses lettres d'adolescence sont d'un conformisme absolu, très étonnant. Il écrit exactement ce qu'on attend de lui quand il remercie. Ce sont des remerciements. Il n'y a pas cette emphase.
Oui, mais c'était aussi la jeunesse, peut-être. Il n'avait pas.
Oui, on lui dicte.
Sa personnalité n'était encore peut-être pas suffisamment affirmée.
Mais moi, ce que je ressens dans la confrontation des courrier entre Wagner et Louis II de Bavière, c'est cette espèce, d'entraînement réciproque vers une emphase et une extase de plus en plus forte. On se déifie l'un l'autre, et puis Louis II, mais il est certain que Louis II de Bavière a déjà ce style quand il écrit à sa fiancée. Là encore, il y a cette espèce d'emphase permanente, mais parce qu'encore une fois, il dissimule ses sentiments. C'est d'ailleurs intéressant de se poser la question. Il a une passion extrême pour Wagner, un amour. Ils ont 30 ans de différence, mais il est amoureux. Il est amoureux de Richard Wagner. Il lui écrit d'une manière amoureuse. Et quand il écrit à Sophie, c'est amoureux, mais amoureux moins. C'est moins. On a l'impression que c'est moins sincère, c'est plus convenu.
On lui dicte un petit peu.
On lui dicte un petit peu, mais il n'est pas aussi.
Il n'est pas empressé, c'est sûr.
Il n'est pas empressé, et puis il n'a pas, ce relâchement absolu. Alors, cette mise en comparaison de ces deux types de correspondances, elle nous amène nécessairement à évoquer une troisième correspondance, celle qu'il entretient avec Élisabeth d'Autriche. Alors, Élisabeth d'Autriche, on peut peut-être en parler, en dire deux mots sur l'impératrice d'Autriche. Pour l'éternité, il y a évidemment ce film de Visconti dont on parlera sans doute tout à l'heure au sujet d'Élisabeth d'Autriche. C'est sa cousine germaine. Il la connaît depuis l'enfance.
Toujours,
ils ont, je crois, 9 ans de différence, quelque chose comme ça. C'est sa belle-sœur.
Au moins
le temps des fiançailles, il la considère comme telle.
Future belle-sœur.
Et puis finalement, on n'ira pas au bout de l'affaire, on le sait, on l'a vu, on l'a dit. Mais eux s'écrivent beaucoup aussi. Alors là, ce sont deux personnages qui sont très proches l'un de l'autre.
Je pense que c'est la personne qui l'a le plus compris.
Ils ont en commun...
Parce qu'Élisabeth, ils étaient quand même romantiques les deux. Ils avaient, je pense que... ils ont partagé des promenades ensemble, ils ont partagé plein de choses.
Ils ont des goûts en commun, mais ils ont peut-être aussi, malheureusement, une espèce de névrose en commun qu'on peut ressentir dans la vie qu'on leur connaît, dans leurs correspondances, dans leurs actes. Ils vont avoir tous les deux une mort tragique. Tous les deux au bord d'un lac. Ce rapprochement me vient à l'instant.
C'est ça, oui. À Genève, et puis oui, c'est vrai.
Et l'autre en Allemagne. Et c'est d'ailleurs tragique parce que ce rapprochement, ils l'ont toujours exprimé de manière extrêmement intime l'un vis-à-vis de l'autre. Ils savent qu'ils sont de la même essence,
parce
de la même nature.
Parce qu'ils se connaissent, ils se connaissent bien en fait.
Alors ils se connaissent, ils se reconnaissent. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de s'identifier? Alors je ne sais pas si Élisabeth d'Autriche avait un goût pour les opéras de Wagner, mais quand elle écrit à Louis II, elle lui écrit la chose suivante. Ô toi, l'aigle qui plane sur les montagnes, reçois de la mouette des mers le salut des vagues écumantes aux hautes neiges éternelles. La mouette, c'est elle,
c'est l'aigle, c'est lui.
On a vu le cygne, c'est un concert permanent de volatiles, de haut rang, évidemment. Et cette espèce d'assimilation permanente les entraîne dans une névrose qu'ils ont individuellement et qu'ils n'ont pas besoin de...
Oui, c'est un peu l'escalade entre eux.
Mais il y a une contagion permanente.
Oui, c'est ça.
Et il y a deux phrases, d'Elisabeth d'Autriche à Louis II de Bavière. Et vous allez voir la force des mots en deux lignes. Ne pense pas à ce que le monde peut dire ou écrire. Qui peut nous toucher? Nous pouvons tout nous permettre. Je trouve que cette phrase très définitive, elle exprime tout à la fois le comportement de l'un ou l'autre. On sait que Louis II de Bavière, il n'écoutait pas beaucoup ses conseillers. Quand il s'agissait de dépenser de l'argent,
on n'avait pas besoin de lui donner
de directives, il n'écoutait personne. Et puis Elisabeth d'Autriche non plus.
Elle a fui pour être tranquille, elle a fait des voyages pour ne pas s'occuper de l'Autriche en gris.
C'est ça. Et ce « nous pouvons tout nous permettre », il est presque insolent parce qu'on a quand même un rôle à jouer. Il y en a un qui est roi de Bavière, l'autre est impératrice.
Oui.
Et le fait de pouvoir s'écrire ça, ça dénote tout à la fois un état d'esprit, une situation. Et puis, en marge de ces rapports fraternels entre eux, quasi fraternels, vraiment une complicité,
quand même.
Une complicité et puis une inconscience folle, quoi.
Le
rôle de souverain, le rôle d'impératrice est complètement passé à côté. Encore une fois, ces correspondances, elles m'ont fasciné. Je trouve qu'on retrouve la vraie personnalité de Louis II de Bavière dans sa façon d'écrire, plus que dans sa façon d'être. Et encore une fois, ce qu'on lui a reproché a été beaucoup plus important que ce pour quoi on aurait pu l'admirer. Et pour en revenir à Bismarck, l'admiration de Bismarck, c'est quand même un vade-mecum extraordinaire. Et on peut lui en être gré.
Oui, donc il était opposé sur le plan politique, mais il reconnaissait que l'homme était un peu un de ses pairs, on va dire. Bismarck reconnaissait beaucoup plus. Il s'arrêtait moins à l'histoire que c'est, mais il reconnaissait. Et puis, il fallait aussi penser que la Bavière, je reviens à la géopolitique, pour lui, la Bavière, ça couvrait quand même tout le sud. Et c'était très important. Et ça conduisait à l'Europe centrale. On est en plein dedans maintenant, ce qui se passe chez nous. Voilà. La politique reste la géopolitique de maintenant. Et ce qu'ils ont écrit... tout à fait, c'est encore très, très valable aujourd'hui. Il nous reste la musique, il nous reste les lettres, bien sûr, mais surtout, il nous reste pour le touriste moyen, il reste les châteaux, et puis pour le touriste moins moyen, il reste les opéras. Difficile à suivre, difficile à comprendre, mais quand même, au point de vue musical, puisqu'il y a encore ces fameux cercles, le cercle Richard-Wagner à Lyon, il n'y a pas de cercle Beethoven ou Mozart, ouais. Donc ce Wagner a quelque chose de puissant, d'unique.
Et puis Bayreuth,
parce que c'est uniquement
wagnérien, hein, Bayreuth.
Et là, c'est le château, le Festspielhaus.
Les concerts sont uniquement de Wagner. Hein.
Oui, d'accord, mais surtout que la conception, à savoir que l'orchestre joue sous la scène.
C'est ça, en plus, oui.
Et pourquoi? Pour être au théâtre, c'est-à-dire les spectateurs...
Pour ne pas être dérangés par les musiciens.
Ne pas les voir. L'orchestre est sous la scène. Et quand on est assis, eh bien, on est vraiment au théâtre. On ne voit que les acteurs. Et les autres sont en dessous. C'est prévu pour ne pas qu'ils transpirent et tout, parce qu'il fait très chaud. Et puis, les opéras de Wagner sont très, très,
très
longs.
Très
longs, très riches. Très riche, maintenant, est-ce qu'on en fait? Enfin, beaucoup de villes aiment, à New York, disons que Wagner est toujours à l'affiche, ne serait-ce que pour le grand bonheur des New-Yorkais, et il y en a encore beaucoup, de souches ou d'origine germanique.
Allemande, oui.
Voilà, il y en a beaucoup, puisque finalement, les Américains, à bien des égards, je dis bien des égards, sont des Allemands qui parlent anglais. Voilà, si on peut dire, à bien des égards. Mais si on regarde l'histoire des États-Unis, c'est ça un peu. Et oui, Gisèle, vous aviez fait allusion à un film,
Ludwig Louis... ou le Crépuscule des Dieux. Ça, c'est véritablement, c'est un film de Visconti.
Oui.
Et ce film est fantastique parce qu'il retrace quand même la vie de ce roi avec des envolées de Wagner, bien évidemment. Et on retrouve ce roi romantique à souhait, beau comme un dieu quand même, parce que c'était Helmut Berger qui l'avait choisi. Et on dessine sa vie quand même dans le film. Et on voit aussi la juxtaposition des gens qui l'ont accusé, parce qu'en fait, il a été démis par des ministres, par des psychiatres qui ont dit qu'il était fou. Petit à petit, il est rentré là-dedans. Mais en fait, et lui, on le voit se balader dans des carrosses, une barque alors en forme
des
de coquillage.
Les fameux traîneaux.
Alors, cette barque en forme de coquillage, c'est quand même incroyable. Donc, qui se baladait sur ce lac. Il était quand même incroyable, ce roi. Et alors, donc, puis sa montée au trône, ce film, on assiste quand même à ce couronnement. Et c'est magnifique, ces images sont superbes. Et puis la rencontre avec Sissi, cette fameuse Romy Schneider, mais elle est inouïe, ces scènes où on les voit tous les deux, qui se parlent, et quand elle découvre la galerie des glaces, et le rire qu'elle émet quand elle voit ça, parce qu'elle se dit « Ah, tu les as eus quand même !» Parce qu'en fait, elle pensait que... C'était une espèce de... Il était un peu sous le brûlot. Et du coup, elle disait « Ah, on les a quand même eus !» Et c'est ce rire qui est incroyable. Et moi, j'aimerais bien qu'on entende quand même ce passage où on l'entend et qui est quand même, qu'elle dit, la fin était quand même assez incroyable.
Vous savez l'angoisse qui m'oppressait dans l'attente de ce jour. Mais je n'ai plus peur à présent. Parce qu'à présent, tout est clair en moi. Je sais enfin à quoi consacrer mon pouvoir. Tout semble si simple, si merveilleux.
Ce qu'on raconte sur toi, est-il vrai?
Et qu'est-ce qu'on raconte?
Que tu n'as jamais connu de femme.
Je suis très catholique.
Et c'est une raison?
Je ne veux pas épouser Sophie.
Votre peuple veut que vous soyez un homme comme eux. Si vous persistez à vouloir être différent, on ne vous le pardonnera jamais.
Même un roi doit se plier aux lois communes de l'humanité.
Je veux vivre libre. Libre de chercher le bonheur jusque dans l'impossible.
Les rois ne laissent guère de traces dans l'histoire. Nous sommes en vitrine. L'histoire nous oubliera. À moins qu'un fou ne parvienne à nous rendre importants à nos assassinats.
C'est très beau. Et en fait, bien sûr, ils savaient
qu'ils
ont été... Alors, je ne sais pas si Louis II a été assassiné, si c'est suicidé. On ne saura jamais. Mais Sissi a été assassiné, en tout cas, à Genève.
Ah, ben Sissi, oui. Voilà. Il y a l'endroit, c'est matérialisé,
c'est
l'endroit.
Ça. Donc, et lui aussi, il a été... Ben alors, on l'a retrouvé mort, mais avec son psychiatre. Alors, est-ce qu'il a voulu se venger du psychiatre? Parce que c'est lui qui l'avait un peu évincé, hein. Donc, c'était incroyable.
On sait
c'est
pas.
C'est triste fin, quand même. Et puis même de la sœur de Sissi, qui est morte quand même
bazar de charité, dans l'incendie du bazar de la charité.
C'était incroyable, oui. C'est mort, quand même.
Oui. Ben, c'est tragique.
Rodolphe à Meyerling.
C'est ça,
oui,
voilà.
C'est le tragique qui est là. C'est voilà. Wagnerien, on va dire.
Oui, c'est ça. On revient à Wagner.
Ben, qu'on veuille ou non, il y a la mort qui rôde partout. Et c'était mais l'époque aussi.
Moi, j'ai trouvé ce film, parce qu'il était proche de la réalité, je pense.
Oui.
Et puis, je pense que Visconti,
ben oui, c'est Visconti.
S'identifiait quand même un peu à
c'est
Louis
le maître.
Et d'habitude, il faisait des films un peu néo-réalisme. Et là, c'est véritablement baroque, flamboyant. C'est inouï. D'ailleurs, c'est son dernier film. Il est mort 4 ans plus tard. Et Visconti a fait un chef-d'œuvre, là. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
D'autant plus que c'est un sujet très difficile.
Oui, avec... et il l'a vraiment bien traité.
À prendre avec des pincettes, puisque la mort, on ne sait pas...
D'ailleurs, il ne dit rien de la mort.
Justement, c'est ce que je veux dire.
Ni des rapports plus ou moins ambigus qu'il a avec sa cousine, il n'en parle pas de ça.
Non, il ne dit rien.
C'est très surfacique.
C'est suggéré.
Sans plus. Donc après, il laisse au spectateur le choix d'arbitre. Hein, donc il fait ce qu'il veut. Mais ce film, pour moi, c'est véritablement un chef-d'œuvre. Et avec des acteurs... formidable.
Les acteurs wagnériens, on n'imagine pas...
Ah oui, c'est ça, voilà.
On n'imagine pas Élisabeth d'Autriche autrement que sous les traits de Romy Schneider.
Il faut des acteurs tragiques.
Romy Schneider, dans ce film, c'est un peu un fantôme, c'est un ange noir, c'est incroyable. Ah non, véritablement, c'est superbe.
Il vous faut aller à l'opéra, Gisèle, et vous allez jouer aussi.
Oui, bien évidemment.
Vous irez à Bayreuth, transpirer sur la scène.
Bien évidemment.
Hein, voilà. Je voulais terminer encore. Là aussi, j'ai un petit courrier de Bismarck qui adressé au roi. Ainsi, en 1880, un chancelier tentait de démissionner parce que Bismarck en avait marre, lui aussi avait tout compris. Le roi réitère l'espoir que les affaires allemandes resteront pendant de longues années encore placées sous votre direction, que rien ne saurait remplacer. Donc, il admire tout ça.
Un témoignage clair,
et voilà. Eh bien, nous vous remercions pour cet éclairage ô combien savant et utile.
Mais merci à vous.
Mais merci. Merci d'avoir fait la route. puis de rentrer aussi.
Lyon, c'est dans la banlieue de Bourg-en-Bresse.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et merci à Jimmy aussi, à la technique. Hello, Jimmy. Et nous allons repartir en musique, bien sûr. Là, on va faire connaissance des quatre Valkyries, puisque nous partons avec la Chevauchée des Valkyries, tirée aussi de cet opéra de Wagner, Die Walküre. Voilà, merci, au revoir et à la prochaine fois.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Thank you.